lunettes, c'est parce que je prends de l'âge et puis je suis jamais sûr de pouvoir me relire. Alors. Doyle, une fois, avait raconté qu'il y avait une dame qui avait demandé au prédicateur qu'un sermon devait montrer le Christ. Dans les cantiques que nous venons de chanter, plusieurs fois, nous avons eu l'occasion de voir le Christ. Ces cantiques nous ont montré la gloire du Christ, les cantiques nous ont montré les souffrances du Christ. Ces cantiques nous ont montré la vie du Christ ici sur la terre. Comment montrer le Christ? Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de film, de DVD, ou seulement des reconstitutions qui sont basées sur les Écritures, plus ou moins sur les Écritures, avec bien sûr des acteurs qui jouent les rôles des apôtres et de Jésus aussi. J'ai vu plusieurs de ces films. Certains me disaient, ben tiens, Jésus devait être comme ça. Parce qu'on s'attend, à travers les Écritures, quand on lit, de voir Jésus, on imagine qu'il était assez grand, assez beau, avec une barbe, enfin, vraiment quelqu'un de bien. Et j'ai vu une fois un film où je me disais, mais c'est pas du tout ça, Jésus. Jésus était représenté, effectivement, il disait, c'est un film italien, je me rappelle, un ancien film, il racontait, c'était des textes bibliques, alors il déclamait des textes bibliques, mais le physique de Jésus, je disais, mais il pouvait pas être comme ça, Jésus. Il était autrement. Et vous savez, c'est comme ça qu'on n'arrive pas à se représenter, montre-moi Jésus, comment, montrez-nous Jésus, comment était-il? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Mais on peut imaginer des scènes. Lorsque vous lisez un livre de n'importe lequel, et tout d'un coup, de ce livre, ils en ont fait un film, et vous allez voir le film, et vous êtes déçu. Vous dites, mais c'est pas comme ça que j'imaginais tel ou tel personnage. Parce que dans votre imaginaire, vous avez construit un personnage qui est différent. Montre-nous le Christ. Il y a pas mal de films qui ont montré des films de science-fiction, où des gens qui étaient dans une période moderne ont tout d'un coup se retrouvent par un art plus ou moins miraculeux, ou que sais-je, transportés dans le passé, et qui tombent à une certaine époque médiévale ou autre, et ils se retrouvent à avoir des aventures comme ça. Je me rappelle toujours du film « Retour vers le futur », et ça, c'est pratique parce qu'on peut, dans une voiture et tout ça, on peut régler, là, tiens, je vais aller à telle date, et remonter, on peut aller dans le futur, on peut aller dans le passé et tout. Je me suis dit, ce serait intéressant. Je monte dans ma voiture, je règle en 0, en 30, en 25, 26. Et nous voilà propulsés à l'époque de Jésus en Palestine, parce qu'on peut choisir ou bien sur l'endroit aussi où on veut aller. Qu'est-ce que nous y verrions? Peut-être serions-nous déçus. Peut-être serions-nous déçus par le décalage créé par notre imagination entre le récit biblique, tout ce que nous avons pu, même si on connaît très bien la Bible, et peut-être la réalité. Déçus peut-être par l'apparence physique de Jésus. Déçus peut-être par des enseignements qui sont durs à accepter. Déçus peut-être car il ne nous semblerait peut-être pas que l'homme qui était là puisse être le Fils de Dieu. Mais déjà à l'époque, un certain Philippe lui posait la question, « Seigneur, montre-nous que nous puissions voir. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Cette question déjà montre que pour Philippe, Jésus ne suffisait pas. Que Jésus n'était pas à la hauteur du Père. Quelle prétention! Ou plutôt quelle ignorance pour Philippe de vouloir seulement voir le Père. L'air de dire, tu sais Jésus, nous on se contente de peu. Montre-nous seulement le Père, puis ce sera ok. Tiens, on n'en demande pas trop, hein, juste un petit truc, quoi. Fais-nous voir le Père. Mais le Père, ça ne peut pas être toi. Jean chapitre 14, Jésus disait à Thomas, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et alors à ce moment-là, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père, qui demeure en moi, accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Jésus montre ici son unité. Philippe nous en a parlé dans le repas du Seigneur, dans la prière de Jean 17. Jésus montre son unité avec le Père, que les deux forment un, que Jésus et le Père sont un. Et Philippe, qui pourtant voit Jésus, Jésus qui s'est montré à lui, ne le reconnaît pas. J'aurais aussi, en ayant pu l'opportunité de remonter dans le temps, voir Jésus en action, voir Jésus enseignant, voir Jésus guérissant. Simplement le voir vivre qui il était, voir son exemple, voir sa douceur, son autorité, sa sévérité, voir ses miracles, avec peut-être un petit plus pour la résurrection de Lazare. Et puis quand on y est, j'aurais aussi aimé connaître les apôtres qu'il avait choisis. Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, le collecteur d'impôts, Judas, Thomas, l'incrédule, etc. J'aurais probablement aussi été émerveillé de voir plein d'autres actions que Jésus a faites qui ne sont pas racontées dans la Bible. Parce que Jean, chapitre 21, nous dit que le monde ne pourrait pas contenir tout ce que... pour pouvoir contenir les livres qu'on écrirait sur Jésus. Mais vers l'an 30, est-ce que j'aurais supporté de voir son humiliation lors de son procès? Est-ce que j'aurais supporté de voir les crachats, les gifles, les moqueries? Aurais-je supporté de voir la couronne d'épines, le fouet, les souffrances inimaginables, le cheminement jusqu'au calvaire? Aurais-je supporté de voir clouer Jésus sur la croix et d'assister pendant 6 heures à son agonie? Mais j'aurais beaucoup aimé 3 jours plus tard, en étant caché quelque part vers un tombeau, parce que bien sûr on connaît l'histoire, aimé arriver à l'entrée du tombeau, juste avant la résurrection, pour voir comment ça s'était passé. Mais il n'y a pas de voiture magique. Il n'y a pas de voiture où on tourne pour remonter dans le temps. Nous sommes maintenant en 2017, bien loin de tous ces événements. Alors, comment montrer le Christ? Eh bien, pour montrer le Christ, il n'y a finalement que les Écritures. Il n'y a que la parole de Dieu. Et vous savez, je crois que c'est ça qui est le plus important. Jan Opsitz, il y a quelques temps de ça, nous a dit que le plus important, ce n'était pas d'avoir l'image, mais c'est d'avoir le texte, les explications. Les images peuvent être un plus, mais l'essentiel, c'est d'avoir les textes. Et ce n'est pas par hasard que nous avons les textes qui relatent la vie de Jésus, parce que c'est ça qui est le plus important. Alors, dans le Christ, dans la Bible, qu'est-ce qu'elle a dit de Jésus? Parce que le but de ce matin, c'est d'essayer de vous montrer Jésus. Comme cette dame qui disait à Jésus à deuil, dans un sermon, doit essayer de montrer Jésus. Donc j'essaie de vous montrer Jésus. Eh bien, dans la Bible, il est dit que Jésus était de tout temps. Il nous montre la préexistence de Christ. La Bible contient plein de prophéties qui le concernent. La Bible parle de sa naissance, l'incarnation, que Dieu qui est devenu homme. La Bible relate sa vie, son enfance, une longue période de silence, mais relate aussi son baptême, ses enseignements, ses miracles, son autorité, sa souffrance, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, son ascension. Et la Bible nous parle aussi de la gloire de Jésus auprès du Père, et des exemples tels que Étienne, quand il va être lapidé, qui nous montre qu'il voit Jésus qui est debout à côté de Dieu, dans le ciel, et aussi l'apparition de Jésus à Paul quand il est sur la route de Damas. Et on a aussi une vision de Christ dans l'Apocalypse qui nous montre la gloire de Christ. Donc dans les récits bibliques, nous avons en fait tout l'éventail, toute la panoplie de qui est Jésus. Si nous pouvons déceler simplement une petite partie, c'est déjà beaucoup. Et maintenant, tout ce qui est raconté dans la Bible, c'est une chose, mais comment nous voulons le voir, le Christ? Peut-être avons-nous une vision déformée par des versets qu'on préfère par rapport à d'autres. Alors nous aimons bien voir un Christ sauveur. Dans Luc chapitre 2, il dit « Il vous est né un sauveur, qui est le Christ ?» Nous voulons voir un Christ d'amour, car Dieu a tant aimé le monde. Nous voulons voir un Christ qui pardonne. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Nous voulons voir un Christ glorieux. Pierre et ses compagnons qui ont vu la gloire de Jésus quand il était transfiguré. Mais nous voulons peut-être déjà moins voir un Christ Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis ? Et nous voulons encore moins voir un Christ de justice, un Jésus qui punit. Quand il dit, ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Et bien sûr, moi je suis là d'accord avec vous. Je préfère un Jésus sauveur, un Jésus d'amour, un Jésus qui pardonne, un Jésus glorieux, qu'un Jésus Seigneur et qu'un Jésus qui punit et qui est justice. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les aspects du Christ doivent être montrés d'une manière égale. Il ne faut pas faire de distinction. Bien sûr qu'il y a des versets qu'on préfère, mais il faut considérer le Christ dans son ensemble, qui a toutes ses attributs, qui a toutes ses qualités, toutes ses vertus. Et maintenant, voyons le Christ dans l'Église. Comment montrer le Christ dans l'Église? Eh bien, simplement, regardez autour de vous. Vos frères et vos sœurs vous montrent le Christ. Vos frères et vos sœurs vous montrent le Christ. Christ habite en nous. Nous sommes le corps de Christ. Galates chapitre 3, verset 27 nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Dans le repas du Seigneur, nous participons au corps et au sang de Christ. Regardez ce repas, et Christ y participe aussi. Christ s'y révèle. Christ nourrit les invités à son repas. Il nourrit les baptisés. En Corinthiens chapitre 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Romains chapitre 8. « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Éphésiens chapitre 3. « Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Nous avons revêtu Christ. L'Esprit de Dieu habite en vous. » Regardez autour de vous. Vos frères et vos sœurs vous montrent le Christ. Je voudrais lire un extrait d'une lettre qui était adressée au IIe siècle à un païen noble qui s'appelait Dioniette et qui nous raconte un peu qui étaient les chrétiens de l'époque. Les chrétiens se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence tout en manifestant les lois extraordinaires et paradoxales de la manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers de passage, ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent leur force. On les calomnie et ils y trouvent leur justification. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Alors qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu'on les châtie, ils se réjouissent. Ceux qui les détestent ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité envers eux. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme habite dans le corps et pourtant elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde mais n'appartiennent pas au monde. Montre-nous le Christ. Je pense que dans cette image des premiers chrétiens, nous voyons l'exemple du Christ et que nous pouvons voir dans ces chrétiens qui était le Christ. Et même dans le monde, vous savez, Dieu est présent. Dieu attend que chacun lui autorise d'habiter en lui. Il est juste à côté. Il est même au-dedans de chaque personne dans le monde. Actes chapitre 17 nous dit « Or, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons le mouvement et l'être. » Dieu à travers chaque être humain de la planète. Aucune personne ne peut bouger, ne peut vivre si Dieu n'est pas en lui. Mais il y a une distinction qui change, c'est « En lui nous avons le mouvement et l'être », mais une autre partie qui dit que Dieu habite en vous, et ça c'est toute la différence. Est-ce que Dieu habite en nous, ou est-ce que nous avons seulement le mouvement et l'être en Dieu? Et ça c'est une grande différence qui est importante. Et on voit aussi cette proximité, que Dieu n'est pas loin d'entre nous, parce que Dieu est déjà en nous. Il est dans chaque être humain. Il suffit que chaque être humain lui ouvre son cœur. Rappelez-vous que Jésus dit « Je frappe à la porte ». C'est Jésus qui est là. On ouvre la porte et il rentre. Et il habite en nous. Il habite avec nous. Il n'y a pas grand-chose à faire. On voit que Dieu a fait tout le chemin. Dieu nous anime. Sans lui, il n'y a pas de vie. Mais cette différence entre un Dieu qui anime et un Dieu qui habite fait que c'est toute la différence. Où se trouve Christ dans le monde? Je vais lire un passage. Dans Matthieu chapitre 25, les versets 35 à 40. Et Jésus dit, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. » En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi, Jésus, que vous l'avez fait. Le Christ dans le monde s'identifie avec ceux qui ont faim, avec ceux qui ont soif, avec ceux qui sont nus, étrangers, malades, ou ceux qui sont en prison. Le Christ se montre. Le Christ est là. Mais on ne le reconnaît pas. Comme dans les deux exemples suivants, rappelez-vous les disciples sur le chemin d'Emmaüs? Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha, prit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ou aussi, le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Certains versets de Ésaïe 53 concernent Jésus, et je pense qu'ils peuvent être appliqués aussi aux démunis. Je modifie un petit peu le texte. Et en fait, ce texte, je vais simplement pas le mentionner pour une personne, mais pour beaucoup de personnes. Ésaïe 53. Ils n'ont ni apparence ni éclat pour que nous les regardions. Et leur aspect n'a rien pour nous attirer. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à ceux devant qui on se voile la face, ils sont méprisés, nous ne les considérons pas. Le Christ dans le monde est celui qui est sans apparence, celui qu'on ne reconnaît pas. Je me rappelle d'un prédicateur qui s'appelait Stanley Shipp, que pas mal d'entre vous peut-être ont connu, qui avait reconnu qu'il était dans un pays d'Asie, et il y avait plein de mendiants, et dans un mendiant, il a dit, « Je reconnais, c'est Jésus. » Et il a pris ce mendiant, il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé, il pleurait, il lui a donné sa chemise, enfin plein de choses. Parce que ce Stanley Sheep, qui était quelqu'un, je dois dire, d'exceptionnel, avait reconnu Jésus dans un des mendiants. Et il en était ému aux larmes. Et nous, est-ce que nous reconnaissons Jésus parmi les démunis, parmi ceux qui ont faim, parmi ceux qui ont soif? Une qualité que nous devrions, que nous devons avoir. Parce que, je l'ai mentionné, nous sommes aussi le Christ. Nous sommes des représentants du Christ parce que son esprit habite en nous. En fait, le Christ est celui qui donne, celui qui est touché de compassion. Et on montre le Christ dans nos actions lorsqu'on est touché de compassion. Et on a aussi le Christ lorsqu'on est démuni et qu'on attend quelque chose. Comme le Christ était le souverain sacrificateur et aussi le sacrifice, ici le Christ est celui qui est démuni et celui qui va lui apporter quelque chose. Montre-nous le Christ. Nous sommes le Christ. Nous le représentons. Les démunis dans la rue, ceux qui ont faim et soif, sont le Christ. Jésus, peut-être qu'on le connaît, peut-être qu'il est aussi un peu inconnu pour nous. J'aimerais, pour vous montrer le Christ, lire un petit résumé de la vie de Jésus. Il est venu de Dieu, il est né d'une simple femme. Sa naissance est un fait qui confond la raison des sages et dont aucun savant sous le ciel n'a jamais pénétré le secret. Il a revêtu la nature humaine afin de pouvoir racheter l'espèce humaine. Il est devenu fils de l'homme afin que nous devenions fils de Dieu. Il a vécu dans la pauvreté, grandi dans l'obscurité. Une fois seulement, au cours de sa jeunesse, il a franchi la frontière de sa province. Il n'a pas eu les avantages d'une haute instruction ou d'une éducation distinguée, sa famille étant sans fortune et sans influence. Et pourtant, petit enfant, il a été un sujet de terreur pour un roi. Jeune garçon, il a étonné et embarrassé les docteurs. Dans l'âge mûr, il a commandé la nature, marché sur les vagues, ordonné à la mer de s'apaiser, rendu la santé du corps à des multitudes, ressuscité des morts par le seul pouvoir de sa parole. Il n'a jamais écrit un livre, et cependant aucune bibliothèque ne pourrait contenir les livres qui ont été écrits à son sujet. Il n'a jamais composé un cantique. Et pourtant, le nombre des mélodies dont il est aujourd'hui le thème est tel que tous les compositeurs réunis ne sauraient l'égaler. Il n'a jamais fondé une école, et pourtant toutes les universités du monde ne pourraient se vanter d'avoir rassemblé autant de disciples. Il n'a jamais appris ni exercé la médecine, mais qui donc pourrait dire le nombre de cœurs brisés par la souffrance qui, depuis 20 siècles, ont trouvé auprès de lui la guérison? Il n'a jamais commandé une armée, ni enrôlé un soldat, ni manié une arme. Et pourtant, aucun chef n'a levé plus de volontaires. Et de par le monde entier, des rebelles ont déposé les armes de la révolte et soumis leur volonté à la sienne, sans une parole de sommation de sa part, sans un geste de violence, par les seules armes de la douceur. Il a changé son vêtement de pourpre royal pour la tenue de l'humble artisan. Il était riche, et par amour pour nous, il se fait pauvre. Et combien pauvre. Demandez-le aux bergers et aux mages quand il est né. Il a dormi dans la crèche d'un autre. Il a traversé le lac de Génézareth dans la barque d'un autre. Il a fait son entrée à Jérusalem sur l'âne d'un autre. Il a institué son repas, la Sainte Cène, dans la maison d'un autre. Il a été enseveli dans la tombe d'un autre. Et il n'avait même pas d'endroit où reposer sa tête. De grands hommes sont comparus et sont tombés dans l'oubli. Lui seul ne passe pas. Hérode n'a pas pu le tuer et Satan n'a pas réussi à faire obstacle à son œuvre. La mort n'a pas été capable de détruire ni le tombeau, de le retenir sous sa puissance. Il est le Christ incomparable, l'admirable annoncé par le prophète Esaïe dès les temps anciens. Sa personne est le grand miracle de l'histoire de la race humaine. Sur son visage d'homme, rayonne la gloire éternelle du Très-Haut. Montre-nous le Christ. Voilà le Christ. Et comme conclusion, comme exhortation, que dire après tout ceci? Eh bien simplement, ce que je vous exhorte, dans votre vie de tous les jours. Montrez le Christ.